Bonjour Michel Perrot.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous accueillir ce matin. Y a-t-il besoin de rappeler que vous êtes historienne, féministe, parmi les pionnières à avoir travaillé sur l'histoire sociale des femmes et du genre, des ouvriers, des prisonniers, des exclus, des invisibles, pour employer un mot générique dont on reparlera dans un instant, dans la ligne droite de la pensée de Simone de Beauvoir, écrit la biographe Josiane Savigno, qui préface cet épais volume, plus d'un millier de pages, cet épais volume que vous consacre la collection Bouquins chez Robert Laffont. Ça s'appelle Le chemin des femmes. C'est une grande partie de votre œuvre qui est désormais réunie en un seul volume. Une consécration, une reconnaissance dont vous écrivez dès les premières pages de ce livre qu'elles vous ont donné, ces pages, elles vous ont donné le vertige. Était-ce le vertige de vous retrouver à côté de Nietzsche, Schopenhauer et Montesquieu dans cette collection ?
Vertige, oui, bien sûr, parce que je n'aurais jamais imaginé ça, même oui, pas conçu ça, que je pouvais entrer dans un bouquin, quand même, c'est une belle collection, hein. Et en même temps, je le dis aussi dans l'introduction, dans la présentation, le sentiment ambigu que c'est la sortie. Hein ? On entre et on sort. Et on entre là que quand on est prêt de sortir. Bon, j'ai peut-être encore un peu de temps, mais enfin, plus beaucoup. Donc c'est ambigu, mais enfin, il ne faut peut-être pas bouder non plus son plaisir. Après tout, ça m'est donné, ça m'est proposé, je le prends.
Et c'est tout. Avec plaisir. Au passage, dans cette collection bouquins, dans le catalogue que j'ai feuilleté, je n'y ai vu que des hommes, pratiquement. Vous n'y êtes que très peu de femmes. Qu'est-ce que cela dit de la place des écrivaines et des penseuses historiennes en particulier, en France ?
Elles sont peu nombreuses parce qu'elles sont peu nombreuses dans le réel aussi. Il y a évidemment moins d'écrivaines femmes que d'hommes et il y a encore moins d'historiennes que d'historiens. Ceci change. Il y a des changements incontestables et rapides même. Mais évidemment, ça se reflète dans la structure de choses comme bouquins. C'est vrai, absolument, absolument.
Vous faites partie d'une génération d'étudiantes à la Sorbonne à avoir passé des concours exclusivement féminins. Vous avez obtenu l'agrégation dite agrégation féminine d'histoire-géographie. Et ça, à l'époque, ça ne choquait personne. Pas même vous, à l'époque. Ça ne vous choquait pas.
Oh, je trouvais ça désagréable, je dois vous dire. D'abord, pour une raison très simple, c'est que ces messieurs passaient leur oral à la Sorbonne et nous, les filles, on était au lycée Victor Duruy. Personne ne venait nous voir parce que c'était pas du tout important, alors qu'il y avait toujours un spectacle formidable pour ces messieurs parce que les jurys étaient présidés par Fernand Braudel. Nous, c'était un obscur inspecteur général dont j'ai même un peu oublié le nom. Donc, on sentait bien que nous étions mineurs. Hein, on s'en sentait tout à fait.
Et juste auparavant, quelques années auparavant, au cours Bossuet, l'une de vos professeurs était Benoîte Groult. Que vous disait-elle à l'époque de la domination masculine ?
Oh, rien du tout, rien du tout. Benoîte Groult était une jolie jeune femme que nous admirions beaucoup parce que les professeurs étaient des religieuses.
Oui, c'est ça, c'était quand même pas les reines de l'émancipation au cours Bossuet, non ?
Absolument.
Il faut dire ce que c'est, les cours Bossuet, c'était un établissement religieux catholique à Paris. Un peu raide.
Raide avec des concessions à leur public. Ils sont quand même à Paris, ils ont un public relativement évolué.
Mais une ouverture sociale tout de même.
Une certaine ouverture sociale, oui. Et puis alors, il ne faut pas oublier que c'est la guerre. Et Vichy leur a rendu à ces dames religieuses leur costume. Avant la guerre, elles étaient en sécu, comme on disait, sécularisées. Et puis voilà qu'après la guerre, elles arrivent avec leurs cornettes, etc. Bon, ça faisait un effet tout à fait curieux. Et alors, elles faisaient appel à des étudiantes pour les matières dans lesquelles elles étaient pas très fortes. Hein. Par exemple, les mathématiques. Par exemple, l'anglais. Et c'est comme ça que Benoîte Groult, qui avait besoin à l'époque de gagner un petit peu d'argent, hein, venait nous faire des cours. Mais franchement, elle ne nous parlait pas pas du tout des femmes, et elle nous regardait de loin, je dois dire. Et quand plus tard je lui ai rappelé, parce qu'elle elle le raconte dans le journal à quatre mains avec sa sœur Flora, elle raconte ça, les filles du cours Bossuet. Je lui dis, vous savez, moi j'y étais, hein. Moi j'y étais. Elle dit que c'était, que nous étions une masse amorphe.
Oh, pas très gentil pour vous. Dans les années 50, un mot sur votre maître de thèse et l'historien Ernest Labrousse. Alors lui, il voyait d'un mauvais œil l'étude de l'histoire ouvrière par le prisme des femmes. Comment avez-vous pu lui tenir tête ?
Oh, je ne lui ai pas tenu tête, parce que d'abord, vous savez...
Par la suite, c'est que ça a fait votre succès. Étude des femmes par le prisme des femmes, cette étude des grèves et des mouvements sociaux par le prisme des femmes, ça a fait votre littérature en partie.
Oui, absolument.
Donc vous lui avez tenu tête, finalement.
Oui, je lui ai tenu tête, si vous voulez, mais je veux dire à ça que, de ma part, ça n'a pas été une révolte grandiose.
Une obstination.
C'était, oui, je lui proposais ça un petit peu avec le sentiment d'être un peu marginal, je faisais mon petit coup, comme ça. Et lui m'a dit, mais non, mademoiselle, vous voulez quelque chose de très actuel, vous ne ferez pas carrière avec ça. C'était gentil. Bon, travaillez donc plutôt sur les grèves.
Vous avez ensuite effectivement écrit sur les grèves. Rien ou très peu n'avait été écrit les grèves vues par le prisme des femmes avant vous. Pratiquement rien.
Ah oui, rien. Non, rien.
Et c'était incongru, ce n'était pas un sujet de réflexion.
Ah, les femmes, non, pas du tout. Il y avait quelques historiennes. Edith Thomas, par exemple, qui était une archiviste des Archives nationales, qui a fait des livres remarquables.
Il y a eu Françoise Héritier.
Mais bien après.
Bien après.
Et elle est anthropologue. Mais pas historienne. Hein. C'est pas la même chose du tout. Et non, il n'y en avait pas. Véritablement, c'était pas un sujet. C'était pas un sujet. On parlait pas des femmes, non.
Le mot machisme n'existait pas, d'ailleurs. On parlait de patriarcat.
Oui, dans les années 70, alors là on saute par-dessus les années, on commence en effet, avec le mouvement de libération des femmes, à parler de ce que nous appellerions domination masculine maintenant, mais on disait patriarcat. Christine Delphi, qui a été une grande théoricienne, employait le mot patriarcat, c'était ça le terme.
Ce qui a changé donc effectivement avec les mouvements féministes des années 70, c'était cet élan qui a ouvert cette brèche dans laquelle vous vous êtes engouffré. Que pensez-vous que les historiennes et historiens de demain diront des mouvements actuels MeToo, balance ton porc contre le harcèlement masculin? Comment regarderont-ils et qu'écriront-ils là-dessus?
C'est très difficile de connaître le regard des historiens du futur, parce qu'il sera évidemment remodelé par leur propre actualité. Hein. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Espérons qu'ils regarderont cela avec curiosité et en se replaçant dans une évolution longue, et qu'ils y verront une étape. Et peut-être même se diront-ils... Oh, ce qu'elles étaient drôles dans ce temps-là, hein. C'était encore comme ça.
Mais quel regard porteront, par exemple, Lou et Gabrielle, les dernières venues dans votre famille, qui sont vos arrière-petites-filles, c'est ça?
Oui.
Quand elles auront 18 ans, 20 ans?
Vous savez, mon arrière-petite-fille Lou a déjà 7 ans. Dans 10 ans, elle aura 17 ans. Moi, je serai à patresse, mais bon, je la vois très maligne et je la vois très rebelle. Alors, j'imagine que... et en même temps, oui, c'est très curieux. Et ben, en même temps, elle aime aussi, le féminin. Elle adore danser, avoir des pointes, avoir un tutu. Bon, une petite fille classique, en définitive. Mais elle ne supporterait certainement pas qu'un garçon lui tienne la bride.
Le chemin des femmes, Michel Perrault, votre livre qui regroupe une bonne partie de votre œuvre. Est-ce que votre vocation d'historienne n'est pas venue d'abord pour contrarier un homme, votre père, qui souhaitait que vous fassiez médecine d'abord?
Oui, peut-être. Je pense que mon père était un médecin rentré, il n'avait pas pu faire sa médecine, il me voyait bien médecin, et moi aussi, au fond. Mais au cours Bossuet, on avait une très mauvaise formation scientifique. Et quand j'en ai parlé à une des étudiantes de sciences naturelles, qui, elle m'a dit, écoutez Michel, non, vous n'y pensez pas, vous êtes trop mauvaise en mathématiques. Il fallait quand même encore pas mal de maths, encore aujourd'hui.
Et toujours aujourd'hui, pour faire médecine, médecin. Il faut faire des maths.
Et donc, j'ai fait autre chose, l'histoire qui me plaisait.
Votre mère, qui était une femme qui a travaillé dans sa vie, enfin qui était plutôt émancipée, elle a été empêchée d'une certaine manière. Elle aurait pu faire des études qu'elle n'a pas faites.
Oui, bien sûr, parce que elle était fille d'ingénieur. Elle a été au lycée Fénelon, ce qui était quand même, dans les années 1900, un des premiers lycées de filles. Elle était très bonne en dessin. Remarquable. J'ai beaucoup de choses d'elle, remarquable. Elle aurait voulu continuer, mais son père a perdu sa femme, elle était donc orpheline, et il lui a demandé de tenir sa maison. Elle avait 15-16 ans, et il lui a dit, écoute, tu peux pas faire ça, parce que moi j'ai besoin de toi, voilà, en quelque sorte. Donc elle ne l'a pas fait, elle l'a toujours regretté, et par conséquent, elle était très ouverte, plus qu'ouverte, convaincue.
Donc elle vous a plutôt encouragée.
Oui. Bien entendu. Mais les deux, mon père et ma mère, étaient tout à fait d'accord là-dessus.
Des athées. Vos parents étaient athées. Vous étiez dans un cours religieux, dans une école religieuse, le cours Bossuet. Cela dit, dans la religion, vous étiez plus intéressé par les prêtres ouvriers que par les saintes écritures.
Oui, enfin, vous savez, j'ai eu comme beaucoup de jeunes filles, c'est classique, ma période mystique, hein, complètement mystique.
Vous avez eu ça.
Qui m'a aidé d'ailleurs à connaître un certain nombre de mystiques de l'époque. Mais le social était quand même très présent. Et c'est vrai que les prêtres ouvriers, au fond, offraient une espèce de synthèse entre l'idée de l'aventure, la mission, et puis le terrain contemporain. Les ouvriers, ils étaient là, on n'avait pas besoin d'aller en Afrique, en Chine, etc. Et on nous disait, au cours Bossuet, que c'était un monde complètement déshérité. Et quand on disait déshérité au cours Bossuet, sans doute c'était matériel, mais c'était surtout spirituel. Hein, on pensait que des ouvriers qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient perdu de ce point de vue-là, était très malheureux. C'est pas tellement le cas, de ce point de vue.
Était-ce votre adhésion au Parti communiste français au début des années 50 qui vous a fait intéresser aux ouvriers ou est-ce l'inverse? Quel est le rapport entre... Qui est prééminent sur...
Les ouvriers d'abord.
Les ouvriers d'abord.
Et au fond... D'une certaine manière, je viens un petit peu du christianisme social, vous voyez. C'est par le christianisme, il y avait d'ailleurs beaucoup de mouvements. Je pense à Jacques Chataignier, la case, enfin on peut pas entrer là-dedans.
Annie Kriegel, par exemple, a joué un rôle aussi.
Ah oui, hein, bien sûr, bien sûr. Quand j'étais étudiante, je fréquentais évidemment et les catholiques et les communistes. Et les communistes me paraissaient, au fond, d'avant-garde. Et j'étais... encore retenu, si vous voulez, dans les eaux un peu traditionnelles, mais je regardais de ce côté-là. Les jeunes gens auxquels je pense, Jacques Ozouf, Jean-Nicolas, ils étaient beaux comme des dieux. Ils ressemblaient tous à Gérard Philippe, hein, c'était magnifique. Mmh. Et Annie Kriegel, qui ne s'appelait pas Kriegel à cette époque-là, Annie Becker, elle était un petit peu plus âgée que moi, elle préparait l'agrégation quand j'arrivais à la Sorbonne. Elle était formidable. Elle montait sur les tables, je me souviens, pour nous haranguer. Hein, pour nous dire qu'on n'était pas assez militants. Non, elle était extraordinaire. Et pour moi, elle a été certainement une première figure des femmes émancipées.
Êtes-vous toujours communiste aujourd'hui ?
Ah non, non. Depuis très longtemps, non. Vous savez, j'ai fait un passage un peu météorique au Parti communiste. J'y suis entré non pas dans les années 50, mais plus exactement en 54-55, au moment de la guerre d'Algérie. Parce que je pensais que le Parti communiste serait celui qui lutterait contre la guerre d'Algérie. Bon, il l'a fait, mais pas sans vraiment beaucoup d'éclat. Et il y a eu tout de suite la Hongrie. Il y a eu le rapport Khrouchtchev. Moi, j'étais dans une cellule communiste au moment du rapport Khrouchtchev. Le rapport attribué aux camarades Khrouchtchev, comme disaient nos amis et camarades ouvriers. Et nous, on n'était pas du tout d'accord. Je dis nous parce que j'étais avec Léo Zouf aussi, hein, et on essayait de leur démontrer qu'ils se trompaient là, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et par conséquent, le fossé s'est creusé, et quand il y a eu la révolte de la Hongrie, alors là, on était dans une situation incroyable, parce que on gardait les locaux du Parti communiste qui étaient menacés par la droite, et en même temps, on était complètement du côté des révoltés hongrois. On a décidé que ça ne pouvait pas durer et qu'il fallait trancher. Et on a quitté le Parti communiste à ce moment-là.
Michel Perrault, un mot sur les historiennes et historiens quand ils sont récupérés ou happés, sollicités par les politiques. Votre expérience auprès de Michel Rocard dans les années 80, 85 précisément, Michel Rocard, Premier ministre, il vous demande de participer au tout nouveau Conseil national du SIDA. Qu'avez-vous retenu de cette approche politique vue de l'intérieur?
J'ai été très surprise quand il m'a demandé ça, parce que pourquoi moi, qui n'étais pas médecin, j'allais m'intéresser à cette maladie?
Vous vous sentiez illégitime dans ce conseil?
Et comment?
Vous vous sentiez illégitime dans ce conseil?
Oui, bien sûr, je me sentais illégitime au début. Au début, et puis après, justement, c'était Françoise Héritier qui présidait, c'était passionnant, et on abordait donc des questions anthropologiques et également historiques. Voilà. Donc je me suis vraiment fondue dans ce conseil, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, et j'y suis restée 10 ans, en définitive.
Et sur les rapports hommes-femmes, Michel Perrault, est-ce que l'universalisme, au fond, n'est pas la meilleure voie?
C'est ma conviction. C'est ma conviction. Je suis résolument universaliste. Je suis pour un monde où, au fond, le sexe ne serait pas du tout indéterminant, tout en sachant qu'il l'est. Et où on pourrait même choisir son sexe et sa sexualité. De ce point de vue-là.
C'est ce qui se passe.
Oui, absolument. Je suis très Judith Butler, si vous voulez, et queer, si l'on veut, même si j'en ai pas l'air, etc. Oui, pour une très très grande liberté et pour une non-détermination. Mais, avec tout de même la conscience d'historienne que j'ai, que en réalité, la différence des sexes est un très long héritage qui nous a vraiment martelé, déterminé, et que on n'en a pas fini encore avec ça. Quels que soient les progrès, on n'en a pas encore fini avec ça. Donc, il faut tenir, je crois, les deux registres. Et vous voyez, j'étais très hostile aux différentialistes dans les années 70-80. Avec le temps, je suis consciente de ce que cette réflexion sur femme, féminin, a pu apporter et qui est très important. Donc, je pense qu'il faut prendre des deux côtés, sans sectarisme, pour toujours avancer vers quelque chose de nouveau.
On n'a plus le temps d'en parler, on aurait pu parler aussi du rôle de l'orthographe et des conjugaisons dans ce genre universaliste que vous souhaitez de vos voeux. Michel Perrault, donc, merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce livre, Le chemin des femmes, Michel Perrault, paru dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. C'est la somme de une partie de votre travail d'historienne et féministe. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on a le droit de vous dire qu'on vous aime?
Oui. Est-ce que j'ai le droit de vous dire moi aussi? Comme dans Me Too.
Me Too, effectivement. Merci Michel Perrault et bonne journée.